mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour et bienvenue à chaque auditeur.
J'aimerais que tu nous présentes René Girard, qui nous occupe tout au long de ces émissions. Qui est-il ? Quel était l'objet de ses travaux ?
René Girard est né en Avignon, en 1923. Il est décédé à Stanford, près de San Francisco, en 2015. Il a fait l'école des chartes, comme son père. Après-guerre, ne trouvant pas de travail en France, il partit pour les États-Unis. Il y fit une thèse, puis y enseigna la littérature française. Il s'y est marié et acquit la nationalité américaine. Cependant, tous ses livres, sauf un seul, furent écrits et édités en français. René Girard a conçu une anthropologie, c'est-à-dire une vision de l'homme et de l'humanité. Il y a travaillé durant 4 décennies. Du point de vue de la religion, René Girard fut d'abord sceptique, puis il rejoignit la religion catholique dans les années 60. Il dira plus tard « Mon travail intellectuel m'a conduit vers le christianisme et mes découvertes m'ont convaincu de sa vérité ».
Peux-tu aujourd'hui nous donner une vision d'ensemble de cette anthropologie ? On parle de théorie mimétique ou de système Girard. Qu'est-ce que tout cela veut dire ?
Tu as employé 3 termes, vision, théorie et système. De ces 3 termes, c'est celui de vision qui correspond le mieux à ce que Girard nous a apporté. Il a récusé lui-même le terme de système, car ce terme véhicule la connotation de quelque chose de construit, de fabriqué. Or, Girard n'a rien construit. Il n'a fait que regarder le monde sous un certain angle, et par ce simple angle de vue, il a découvert des explications convaincantes de nombreux phénomènes et tiré une somme considérable de connaissances anthropologiques.
Donc, la pensée de René Girard est une interprétation de la réalité, une manière de comprendre les choses.
C'est exactement ça.
Alors Jean-Louis, quel est ce fameux angle de vue ?
Girard est parti du mimétisme, un phénomène bien connu, et a examiné s'il n'aurait pas un rôle dans la grande majorité des comportements humains. Girard a suivi ce fil conducteur et s'est progressivement rendu compte que le mimétisme était à la racine des plus grands phénomènes humains, de la violence à la civilisation. Il y est parvenu en faisant l'hypothèse que le désir, qui nous semble la chose la plus personnelle, la plus propre à chacun d'entre nous, est lui-même régi par le mimétisme. Ce désir mimétique est positif. Il permet l'apprentissage et la transmission. Il suscite les vocations et l'émulation. Un enfant assiste au concert d'un virtuose, il est émerveillé et naît en lui le désir de devenir à son tour un grand musicien. Or, si le désir est mimétique, c'est qu'il est imité du désir de quelqu'un d'autre. Girard voit donc apparaître, outre le sujet désirant et l'objet du désir, un 3e protagoniste, celui qui a inspiré au sujet désirant le désir pour cet objet. Par exemple, quelqu'un s'éprend d'une personne, non pour ses qualités propres, mais parce qu'elle a déjà suscité le désir de quelqu'un d'autre. Girard désigne ce 3e protagoniste par le terme de médiateur. C'est là qu'il aborde sa 2e étape. Le médiateur est un rival. Effectivement, si je désire une personne parce qu'elle m'a été désignée comme désirable par un autre, cet autre est automatiquement mon rival. La société humaine offre de multiples objets pour une telle concurrence. Prestige, pouvoir, richesse, biens matériels, popularité, amis, conjoints, enfants, la liste est sans fin. Ces rivalités s'exacerbent, les antagonismes se propagent par mimétisme et la communauté tout entière entre en crise. Après le mimétisme du désir, la rivalité mimétique, voici donc le 3e temps de la vision de Girard, la crise généralisée qui s'amplifie sous l'effet du mimétisme. Et cela conduit à la violence.
Girard explique ainsi l'origine de la violence ?
Oui, il est en fait une résultante des rivalités mimétiques et des antagonismes qui se propagent dans toute la communauté. Nous pouvons à nouveau constater la puissance explicative de la vision de Girard. Comment des amis peuvent-ils devenir des ennemis mortels ? Comment les guerres civiles peuvent-elles déclencher des comportements horribles entre des personnes qui voisinaient paisiblement auparavant, etc.
Girard s'arrête-t-il ici ?
Pas du tout. En étudiant les mythes, il constate que dans les sociétés archaïques qui ont perduré, les crises prenaient fin de la même façon, toujours et partout. À un moment, un consensus apparaît pour attribuer la responsabilité de la crise à une personne. La communauté procède alors à son lynchage, son immolation, son exécution. Et cet acte violent apporte la paix et la concorde puisque la communauté pense unanimement s'être débarrassée du fauteur de troubles. C'est ce que Girard nomme le mécanisme sacrificiel, et la victime immolée est le bouc émissaire.
C'est donc cela le fameux bouc émissaire de Girard ?
En effet, il l'a nommé ainsi par analogie avec la Bible, lorsque le peuple hébreu charge un bouc de tous leurs péchés et expulse l'animal dans le désert. Par analogie, une communauté en crise charge son bouc émissaire de tous les antagonismes qui la déchirent et s'en débarrasse en exécutant le bouc émissaire.
Mais c'était des sociétés archaïques.
Oui, mais ce bouc émissaire existe toujours, même dans les sociétés évoluées, sous une forme atténuée, je veux dire sans sacrifices humains.
Encore qu'aux États-Unis, les lynchages existaient il n'y a pas si longtemps. Je pense au film « Mississippi Burning ».
C'est vrai. Girard a poursuivi sa réflexion à propos du bouc émissaire. Celui-ci possède un statut plutôt étrange. Il est maléfique puisqu'il est reconnu à l'unanimité comme le responsable de la crise. Mais il est aussi bénéfique. Grâce à son expulsion, la concorde est revenue. À la fois bénéfique et maléfique, cette ambivalence plonge les communautés archaïques dans l'incompréhension, ce caractère paradoxal leur est mentalement inaccessible. Alors, faute de comprendre, elle colle une étiquette.
Une étiquette ?
Un mot plutôt, le mot « sacré ». Il désigne ce que l'on ne comprend pas, ce qui nous dépasse. Ainsi René Girard explique-t-il la naissance du « sacré » par l'ambivalence du bouc émissaire, ce que corrobore la présence du fait religieux dans absolument toutes les communautés humaines. Les perspectives ouvertes par Girard ne s'arrêtent pas là. Les sociétés qui ont survécu à la crise mimétique veulent éviter qu'elle ne recommence. Pour cela, elles instituent des tabous, des rites et des mythes. Les tabous interdisent tout ce qui peut déclencher la crise mimétique. Par exemple, la prohibition de l'inceste évite, au sein du cercle familial, la concurrence pour trouver des épouses. Les rites sont des répétitions symboliques de la crise pour tenter de bénéficier à nouveau de sa résolution salvatrice. Enfin, les mythes sont les récits fondateurs de la communauté. Tous comportent un bouc émissaire au sacrifice salvateur. Quelques exemples, le meurtre de Romulus, le dépeçage d'Osiris ou celui de Dionysos. Les tabous vont devenir des lois, les rites vont engendrer les cérémonies, les institutions, les mythes vont conduire à l'art, à la philosophie et à la science. Ainsi, toute la culture va naître du sacré, lui-même issu de l'ambivalence du bouc émissaire.
Le christianisme ?
René Girard lui attribue une position centrale dans l'aventure humaine, car le christianisme révèle l'imposture et l'injustice attachées au mécanisme du bouc émissaire. Le christianisme est la religion de la sortie de l'archaïsme. Le bouc émissaire est certes à l'origine de la culture, mais en soi, ce mécanisme est non seulement violent, mais aussi injuste et fallacieux. Quand la peste frappe la ville de Thèbes, il est inutile, du point de vue sanitaire, de crever les yeux d'Édipe. Les boucs émissaires sont rarement responsables des maux de la communauté. Là réside l'injustice. En réalité, rivalités et antagonismes ne sont pas réellement résolus. C'est pourquoi le sacrifice du bouc émissaire n'apporte qu'une paix fragile et provisoire. Le relais doit être pris par une culture qui cesse de croire à la culpabilité des boucs émissaires et au bien fondé de leur lynchage. Pour Girard, le rôle historique du christianisme aura été de la proposer.
De quelle façon ?
Par la croix. Le Christ était un bouc émissaire, et nous savons tous qu'il était absolument innocent. Donc la culpabilité d'un bouc émissaire est un leurre, un mensonge. Le christianisme a fait sortir l'humanité du monde archaïque, celui où le seul remède aux maux d'une collectivité est d'immoler une victime expiatoire arbitrairement choisie par la foule.
Et Girard tire tout cela du seul constat du mimétisme de l'être humain.
Oui, c'est l'un des aspects les plus fascinants de sa vision. Elle explique un très grand nombre de phénomènes à partir du simple constat du mimétisme naturel des êtres humains. Girard est le seul, par exemple, à avoir proposé une explication au sacrifice humain pratiqué par la plupart, sinon toutes, les sociétés archaïques. Mais sa vision, son angle de vue, lui permet tout autant d'expliquer les phénomènes de mode, le comportement de la coquette, la géopolitique européenne au XIXe et XXe siècle, et bien d'autres phénomènes qu'il détaille dans ses livres.
Nous en resterons sur ce constat pour aujourd'hui. Merci aux auditeurs de leur écoute. Au revoir, Jean-Louis.
Au revoir à tous. Au revoir, Catherine.